Compose, épisode 57.
Et donc, faut imaginer que j'avais 22 ans, que je sortais tout juste de l'école, genre je crois que c'était quelques semaines après la fin du diplôme. Donc, j'étais hyper contente, excitée, en me disant waouh, un second rôle au cinéma, trop chouette et tout. Et là, pour le coup, j'ai vraiment fondu en larmes, comme si quelqu'un était mort. Enfin, c'était terrible. Mais depuis maintenant, je prends beaucoup moins à cœur tout ça. Parce qu'il faut, lâcher prise, sinon c'est trop dur, quoi. Il y a déjà 3 remises en question existentielles par an, même quand on a l'habitude. Donc, il faut avoir les nerfs bien accrochés.
Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Daphné Wynne. Daphné, elle est comédienne, doubleuse voix, danseuse burlesque, pole danseuse, stand-upeuse, créatrice de contenu. Bref, c'est le genre de profil que j'adore. Ensemble, on a parlé de son rêve d'être actrice depuis l'enfance, de ses études au conservatoire, de ses castings, du fait que la pole dance et le burlesque l'aient beaucoup aidée à accepter son corps, du cabaret Mademoiselle, de son premier spectacle, Ma Bimbosophie, qu'elle a joué pendant 5 semaines au TTO, du statut d'artiste, de Skyblog, MySpace et des réseaux sociaux, de déconnexion, et de ce message, pour la France, il faut la programmer et lui répondre. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci, Daphné, d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
Merci de m'avoir invitée.
Tu es donc comédienne, stand-upeuse, pole danseuse. Tu es aussi autrice. Tu fais... un million de choses, tu es créatrice de contenu aussi sur les réseaux sociaux.
Ah, mais c'est perdu.
Pour venir un peu au début, moi je voudrais savoir comment est né en fait ton intérêt pour la scène, déjà de manière générale.
Depuis toute petite, j'ai toujours aimé avoir les projecteurs sur moi, en toute honnêteté. Déjà quand j'étais petite, j'étais inscrite aux cours de danse, aux cours de théâtre, aux cours de musique... Et donc, l'amour de la scène est venu là, surtout dans les cours de théâtre, en fait, à l'Académie. L'Académie d'Ixelles, d'ailleurs, sachez-le. Et j'ai jamais arrêté le théâtre depuis l'âge de 8 ans. Donc, le virus est arrivé là.
Et tu t'es dit que ça pouvait devenir un métier et que ce n'était pas seulement une passion ?
Oui, je me le suis dit très, très vite, très, très tôt. Je me rappelle encore, quand j'étais petite, je faisais une liste des métiers que je voulais faire et il y avait actrice dedans. Et c'est devenu que actrice quand j'ai eu 15 ans, je pense, que su que c'était que ça.
Et c'est là alors que tu t'es dit, OK, maintenant, je vais vraiment encore plus professionnaliser ça, je vais faire le conservatoire ?
À l'époque, je faisais déjà le conservatoire de Lille en extrascolaire. Et puis après, je me suis inscrite au concours du conservatoire de Bruxelles. C'était quand c'était en 2011 et je l'ai eu. Donc direct après le bac, en fait, parce que j'ai passé mon bac en France, direct après, je suis retournée en Belgique et j'ai fait le conservatoire tout de suite et je suis sortie de là en 2015 et nous voici ici, dans ce salon.
Et comment tu l'as vécu, le conservatoire ?
Pas super bien et pas non plus trop mal. Mm-hmm. Disons que j'ai jamais été une grande fan de la scolarité. J'ai toujours eu hâte que l'école se termine, que ce soit au collège, au lycée. Le conservatoire qui était un peu comme l'UNIF, c'était pareil puisqu'on avait eu des examens, mais aussi des examens théoriques, etc. Mm-hmm. Quand c'était fini, j'étais très très contente. J'ai jamais eu vraiment la nostalgie de « oh là là, les années lycée, c'était vraiment les meilleures années de ma vie, les années conservatoire ». Pas du tout, les meilleures années de ma vie, c'est maintenant.
Trop bien.
Ou depuis quelques années, mais... Donc j'ai toujours été un peu louve solitaire avec ça. Et donc le conservatoire m'a appris beaucoup de choses. Et en même temps, je regrette qu'il n'y ait pas eu assez de cours sur la comédie ou sur les textes plus contemporains, des choses comme ça.
Mmh. Oui, parce que tu apprenais surtout quoi ?
C'est très très classique, hein, le conservatoire de Bruxelles surtout, parce que chaque conservatoire a un peu sa spécificité. Oui. Et nous, c'est vraiment le langage, le bien parler, le beau verbe, la belle prononciation. Mais par exemple, tout ce qui est corporalité est complètement laissé de côté. Ils essayent, il y a des cours de ça, mais qui ne sont pas suffisants, à mon sens, en tout cas il y a 10 ans. Et après ça, dans les concours ou les auditions qu'on faisait après pour rentrer dans des pièces de théâtre, on rencontrait les autres... les autres écoles, les élèves des autres écoles, et on voyait à quel point nous, on manquait de corporalité. Ah ouais. Quoi. Enfin, moi, ça allait puisque justement, je dansais un peu à côté, mais, mm-hmm. mais ceux qui ne faisaient pas de danse quoi, en dehors, ils étaient raides comme des piquets. Quoi.
Ah oui. Mm. Et une fois que tu es sortie justement en 2015, tu as commencé par quoi ?
Bah c'est un parcours du combattant, la sortie de l'école, parce que là aussi, en fait, on ne nous apprend pas l'après. On ne nous apprend pas à gérer les castings, à gérer les refus, à gérer l'administratif. Mmh. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir le statut d'artiste et comment bien faire un contrat ou s'inscrire, oui. etc. On est vraiment laissé à l'abandon. Donc, moi, j'ai eu la chance de déjà commencer à faire des castings avant la sortie de l'école. Ce qui m'a été reproché d'ailleurs au conservatoire parce qu'ils refusent que tu travailles en dehors. Quand ils apprennent que tu as passé un casting ou une audition ou que tu as réussi quelque chose, c'est oui, mais ton métier, c'est étudiant, c'est pas acteur ou actrice pour le moment. Donc, ils étaient assez répressifs là-dessus. Mm-hmm. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin bref. Et donc, mais moi, je me disais rien à foutre, je passe mes auditions et mes castings quand même. Et donc, j'ai commencé à passer des castings déjà dès l'âge de 17 ans, par moi-même, hein, que je trouvais moi-même sur Internet, ouais. etc. Et je me rappelle encore les premiers refus que j'ai eus, mais je pleurais comme, si, comme si ma vie en dépendait. Même en sortant du conservatoire, j'ai pleuré quelques fois. Et en fait, on se rend vite compte qu'on a plus de refus que de succès. Ouais. Et que c'est un peu maintenant que je vais à un casting comme je vais au travail, sauf que je ne suis pas payée. Donc je pointe, je fais mon truc. Si ça passe, c'est très bien. Si ça ne passe pas, tant pis. Il y aura un autre casting la semaine prochaine ou le mois prochain. Mm-hmm. Puisqu'on ne peut jamais savoir quand est-ce que ça va tomber.
Mm-hmm. Et c'est quoi le premier casting que tu as justement réussi et où tu as eu un contrat ? Tu t'en souviens encore ?
Alors, je me souviens d'un casting que j'ai réussi et que je n'ai pas réussi. C'est une anecdote un peu traumatisante pour la jeune actrice que j'étais, parce que c'était l'un des premiers castings que j'ai passé après le conservatoire pour un film, un second rôle dans un film. Je devais parler chinois en plus dedans, et j'avais appris le mandarin avant, et du coup j'ai passé mon casting en mandarin, mais avec un texte que j'avais appris par cœur.
Oh, purée.
Donc quand je l'apprends par cœur, l'accent il passe, etc. C'était pour Un jour mon prince, je crois que ça s'appelle le film. C'était un film canadien avec les fées qui s'occupent de La Belle au bois dormant, un truc comme ça, mais c'est La Belle au bois dormant revisité, temps moderne, quoi. Et j'avais décroché le rôle d'une des fées. J'avais même reçu un mail personnel de la réalisatrice qui me disait « J'ai adoré ce que t'as fait, ça va être toi, c'est super, j'ai trop hâte. » Donc j'étais hyper contente. Mm-hmm. Et puis, on m'a dit, mais tu auras des nouvelles de la prod dans quelques semaines, etc., pour l'organisation du tournage. Et j'étais partie en vacances au Vietnam. Oh là là, j'ai faim, excusez-moi. J'étais partie en vacances au Vietnam toute seule à ce moment-là. Et à un moment donné, je me dis, tiens, mais c'est bizarre, j'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Je vais essayer de les contacter. Et je les ai contactés depuis le Vietnam, la prod. Et voilà, je joue tel rôle dans tel film, j'ai pas de nouvelles, alors que le tournage est censé avoir lieu dans 2 semaines, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on m'a dit, ah, on vous a pas dit.
Oh.
Je fais, quoi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit ? Ah oui, finalement, on a changé de coprod, ça va se passer que en France, donc on a cherché que des acteurs français.
Ah, oh, purée.
J'ai dit, mais je suis aussi française, s'il faut, j'ai la nationalité. Ah oui, non, c'est trop tard, on a déjà trouvé, désolé. Et donc, il faut imaginer que j'avais 22 ans, que je sortais tout juste de l'école. Genre, je crois que c'était quelques semaines après la fin du diplôme. Donc, j'étais hyper contente, excitée, en me disant « Waouh, un second rôle au cinéma, trop chouette et tout. » Et là, pour le coup, j'ai vraiment fondu en larmes, comme quelqu'un était mort. Enfin, c'était terrible. Mais depuis maintenant, je prends beaucoup moins à cœur tout ça. Parce qu'il faut, lâcher prise, sinon c'est trop dur, quoi. Il y a déjà 3 remises en question existentielles par an. Même quand on a l'habitude, donc il faut avoir les nerfs bien accrochés.
Mais oui, c'est vraiment au fur et à mesure comme ça des expériences que tu as réussi à lâcher prise un peu par rapport à ça, à détacher.
Oui, je pense aussi que plus on vieillit, plus ça passe. Enfin, après, il y a toujours une espèce de, pas de lassitude qui s'installe, mais effectivement d'habitude et de... y a tellement de choses qui dépendent pas de nous, le talent ça suffit pas. Bien jouer, ça suffit pas. Être correspondre parfaitement au rôle, ça suffit pas. Que ça dépend tellement pas de nous, en fait, ouais, c'est que il faut, on a juste à faire ce qu'on a à faire et puis aller à chaque test, quoi.
Mmh. Et du coup, le premier vrai contrat que tu as obtenu ?
Alors, attends, maintenant, il faut que je réfléchisse. Parce que pour essayer de quand même travailler avant de faire du cinéma, tout ça, bah, c'est là que j'ai commencé à faire de la danse pour avoir quand même des petits contrats sur le côté, en burlesque et pole dance et tout ça. Mais je dirais que le premier rôle, j'ai eu des rôles dans des publicités assez vite.
Ouais.
Donc ça, je dirais que c'était 2016-2017. Donc entre 2015 et 2000... Ah si, attends, maintenant ça y est, je réfléchis. J'ai refait tout mon CV dans la tête. J'ai eu un petit rôle dans un court-métrage. Ça, c'était en 2013. Pour le coup, c'était encore quand j'étais au conservatoire. Dans un court-métrage de Lucila Djalilovic, qui est la compagne de Gaspard Noé. Et donc ça, c'était ma première vraie expérience professionnelle sur un tournage professionnel, payé, défrayé. Donc, ça, c'était 2013. Et après, en 2015 et 2016, oui, j'ai eu des rôles dans des courts-métrages par-ci, par-là. Ça a commencé comme ça, quoi.
Et t'as senti que t'étais à ta place quand t'étais comme ça sur des tournages ? Enfin, t'as senti que c'était la bonne voie pour toi ?
Oui, oui, oui. Oui, bah, depuis le début, je sais.
Trop bien.
Mais c'est très différent du théâtre dans le sens où on attend beaucoup plus, il y a moins de temps de répétition, on coupe toujours les séquences, donc c'est pas comme si... Au théâtre, on a vraiment le temps de s'imprégner du personnage et de l'histoire et de se laisser, entre guillemets, psychologiquement guider par le truc.
Ouais.
Là où au cinéma, il faut un peu plus tricher, quoi. Mais l'expérience est tout à fait différente. Il y a beaucoup plus de fatigue aussi, je dirais, peut-être au cinéma qu'au théâtre. Ouais. C'est une fatigue différente, quoi. Qui est moins organique, en tout cas. Mais je préfère.
Et oui, tu le disais, du coup, en 2016, il y a eu la pole dance et la danse burlesque. Comment t'es rentrée dans cet univers-là ?
La pole dance, j'ai commencé en 2012 par hobby. Enfin, je voulais me remettre au sport. Donc, une copine m'a dit, mais moi, je prends des cours de pole dance là-bas, viens à la Sarah Academy. À l'époque, il n'y avait que deux écoles de pole dance à Bruxelles. Maintenant, il y en a pléthore.
Oui, c'était beaucoup moins connu, oui.
Et ça a été tout de suite une passion. Et donc, en 2016, je me suis professionnalisée en même temps que le burlesque. Le burlesque, j'avais fait des workshops par-ci, par-là. J'avais eu des spectacles. Et j'ai fait ma première scène en 2016. Et en 2016, j'ai cofondé avec Angèle Plot, à l'époque, la Bruxelles Art & Pole, qui est devenue ce que c'est aujourd'hui. Et moi, j'ai arrêté la co-direction assez vite. Et ça fait 2 ans et demi maintenant, presque 3, que j'ai arrêté de donner cours complètement pour me consacrer entièrement justement à l'acting parce que je ne trouvais plus le plaisir que j'avais avant à donner des cours et à danser à être même au cabaret, des choses comme ça. Donc, je suis comme ça. Moi, j'ai un intérêt, ça dure quelques années, puis je passe à un autre. Donc... Voilà, je crois que là, j'ai fait mon temps. Après, j'ai toujours envie de faire de la pole une activité pour me faire plaisir à moi, mais plus forcément pour être payée, sauf si un rôle le demande et des choses comme ça. Quoi. J'ai ce skills-là.
Et on y reviendra, il y a de la pole dance aussi dans ton premier spectacle. Mais comment t'es passée de aimer ce sport, le faire pour toi, à donner cours ?
Bah, j'avais fait des formations avec Doris Arnold à l'époque, qui est une pole danseuse que j'adore, qui est hyper sexy, hyper dans la sensualité. Et elle proposait des formations professionnalisantes à Paris, à Sèvres plus exactement. Et j'en avais fait 2 ou 3. Et suite à ça, je me disais, avec ça, au moins, j'ai la légitimité. Enfin, je pensais, moi, avoir la légitimité pour donner des cours sécurisés. J'ai proposé mon CV à droite à gauche. J'ai commencé à donner cours... dans une école à XL. Et puis, ça ne s'était pas très bien passé. Donc, je cherchais à donner cours ailleurs. Et finalement, c'est là que j'ai rencontré Angèle qui, elle, cherchait à monter son business. Et on s'est mis ensemble à ce moment-là pour collaborer. Et on a ouvert l'école à XL aussi, près de l'ULB. Et de fil en aiguille, ça s'est vraiment fait comme ça, quoi. De façon tout à fait spontanée, je dirais.
Et qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de donner cours ?
Mais j'aimais bien voir le progrès des élèves, voir que aussi de façon assez égoïste, voir que mes explications étaient bien comprises, me dire ah que j'ai en fait de la pédagogie, créer des chorégraphies que les élèves après pouvaient s'approprier et voir que ça leur faisait plaisir. Je crois que le plus beau, c'est de voir vraiment à quel point les regards s'illuminent quand le progrès est là et qu'elles sont contentes, elles ou ils, hein, d'ailleurs, sont contentes d'elles-mêmes. Et un peu comme moi quelques années avant, quand j'arrivais à faire des choses que je ne soupçonnais pas que mon corps pouvait faire. Mm-hmm. Donc voilà, ça me plaisait beaucoup. Et puis, les années passant, j'aimais un peu moins donner cours parce que ça prenait trop de temps sur mes vraies passions qui étaient le cinéma, l'écriture, l'acting. Donc voilà, c'était naturel, je pense, comme processus.
Ouais. Ce sport, ça t'a vraiment donné justement confiance en ton corps ?
Oui. La pole dance et le burlesque, ça m'a beaucoup aidée à accepter mon corps, même si je ne l'aime pas encore tout à fait. Comme tout le monde, je pense qu'il y a des moments où, voilà, il y a des moments où je le déteste, d'autres moments où je me trouve méga bombasse. Et ça peut être parfois dans la même journée. mais la pole et le burlesque m'ont aidé à me dire que ce n'était pas grave. Enfin, m'ont aidé à ne pas en faire une obsession.
Ah oui.
Et à lâcher prise, justement, puisque on voit tellement d'autres corps autour de nous, dans les coulisses ou dans la salle de sport, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on ne fait pas attention aux défauts, entre guillemets, des autres, comme on fait attention aux nôtres. Et donc, ça aide vachement. Et puis même, on les trouve magnifiques. Et donc, ça aide vachement à prendre de la distance. Et le fait de faire pas mal de nus artistiques et de lingerie aussi à l'époque m'a aidé à le trouver beau, ou en tout cas à savoir quelle pose prendre pour le trouver à mon goût à ce moment-là. Quoi. Ouais.
Et ça t'a aidé aussi dans ta pratique de l'acting, d'avoir ce côté burlesque et la pole ?
Je ne sais pas si ça m'a aidé dans la pratique de l'acting. Par contre, l'acting m'a aidé dans la pratique de la pole et du burlesque. Ouais. Justement, quand j'ai commencé à monter sur scène avec des numéros personnels, le fait d'être actrice à côté m'a permis, je pense, de mieux les interpréter ou d'avoir une interprétation un peu plus théâtrale de la chose que juste la beauté esthétique du geste. donc ça, en ça, ça m'a beaucoup aidée. Et je pense qu'à l'inverse, la danse m'a aidée peut-être dans l'acting à être plus à l'aise avec ma corporalité dans l'espace, comme on dit chez les théâtreux, à prendre place. Voilà.
Et en 2017, tu étais aussi rentrée dans la troupe officielle du cabaret Mademoiselle.
Tout à fait.
Ça t'a fait quoi, en fait, de rentrer dans cette troupe qui est mythique chez nous ?
Mais à l'époque, on ne se rendait pas compte encore de l'ampleur que ça allait prendre. On était juste très excités d'avoir enfin un lieu où on pouvait faire du burlesque régulièrement, parce que ça manquait cruellement à ce moment-là à Bruxelles. Et donc, on était très, très excités. Un peu, c'était un saut dans l'inconnu, particulièrement pour Renaud, le gérant, Mademoiselle Boupe. Et là, des années plus tard, c'est vraiment devenu une institution et c'est super. Enfin, moi, je suis très fière d'eux et de ce qu'ils ont réussi à faire. Même si moi, maintenant aussi, de mon côté, j'y mets un peu moins les pieds. Ouais. La dernière fois que j'y ai performé, c'était en septembre. Et là, tout doucement, je sens que je vais décrocher. Enfin, là aussi, dire ciao, c'était super, merci pour tout. Et oui, puis je vois qu'il y a plein d'autres artistes qui sont là pour prendre la relève, donc ça fait chaud au cœur.
Trop bien. C'est, même si tu disais que voilà, tu te concentrais sur un truc, puis tu passais à autre chose, c'est difficile parfois de faire des choix, justement, de ne pas pouvoir tout faire. De devoir choisir d'arrêter de donner des cours de pole pour te consacrer à l'acting, de devoir t'arrêter d'être au cabaret Mademoiselle.
Non, je m'arrête quand je sens que j'ai plus envie.
Ah oui.
Donc c'est même plus vraiment un choix, parce que le choix se fait tout seul, la décision se prend toute seule à partir du moment où je perds l'envie ou le besoin de. Et là, je sens que j'ai fait mon temps de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que je ne referai plus jamais de pole ou de burlesque, comme je disais, dans une pratique personnelle ou pour mes autres arts comme le stand-up, le théâtre ou le cinéma. Ça va me servir pour ça et j'aimerais pouvoir interpréter des rôles de danseuse de cabaret, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est vrai que remonter sur scène, refaire partie d'une troupe, faire des dates à droite, à gauche, avec ma petite valise et parcourir l'Europe, je l'ai fait, c'était incroyable, mais je ne veux plus le faire. Donc à partir du moment où je ne veux plus le faire et où je sens que l'envie n'est plus là, c'est juste après une bataille entre moi et moi et une discussion interne où je me dis, bon Daphné, il ne faut pas se forcer, quoi. Mm-hmm. Et là, je m'écoute et... Hop, et je passe à autre chose.
C'est trop bien. Bah oui, tu le disais, t'as commencé le stand-up aussi.
Oui.
Comment t'as rajouté comme ça ce côté humour à côté de ta pratique justement du théâtre, du cinéma?
Je dirais que l'humour fait partie de ma vie depuis que je suis bébé. Mais en fait, j'ai toujours eu envie d'avoir mon one woman show.
Ouais.
Je me suis dit, ça, c'est un rêve que j'aimerais vraiment réaliser. Mais je me voyais mal. Concrétiser ce rêve sans avoir essayé la discipline du stand-up et du seul en scène et m'entraîner, rencontrer des gens et voyager, et écrire et réécrire. Je voulais vraiment m'expérimenter, entre guillemets, dans le domaine avant de me dire, ok, là, je me sens prête, je sais comment je veux écrire les choses. Et d'ailleurs, je l'ai su que très tard, comment je voulais écrire les choses et je ne pouvais pas le faire toute seule, il fallait que je sois aidée d'un metteur en scène, d'une assistante à la mise en scène, qui m'ont bien aidée à justement canaliser tout ce que je voulais écrire et sous quelle forme. Parce que toute seule, ça n'aurait pas été possible, je pense. Surtout que je n'imaginais pas un spectacle de stand-up classique. Parfois, je regrette même. parce que je me dis, mais merde, si j'avais fait un spectacle de stand-up classique debout, micro, tabouret, j'aurais pu le faire tourner beaucoup plus facilement.
Oui, c'est ça.
Et ça aurait coûté moins cher, et ceci et cela. Là, comme j'ai eu l'ambition de danser en même temps, de faire des projections, de faire du doublage, de faire tout un tas de trucs, ça s'adresse plus à des théâtres officiels, entre guillemets, des salles de théâtre. Et là, le secteur est un peu plus bouché, et c'est beaucoup plus difficile de vendre le spectacle. Donc, en soi, je ne regrette pas, et de l'autre côté, je me dis, si j'avais fait une version... Et en même temps, je réfléchis pas beaucoup plus longtemps parce que c'est moi, c'est comme ça et j'aurais pas voulu faire un stand-up d'une heure, même si je pense que si j'avais voulu, j'aurais pu. Et ce sera peut-être pour un prochain spectacle.
Oui, j'allais dire, ça peut être la suite.
Mais là, pour ce premier, c'était comme ça que je voulais raconter les choses et je ne me voyais pas faire une version unplugged de ma bimbosophie. Ça aurait eu beaucoup moins de sens.
Ouais, ouais, ma bimbosophie, le public a pu le découvrir l'année passée. Ça faisait combien de temps que tu préparais ce spectacle, toi?
Un an seulement et encore. En fait, dans ce spectacle, il y a des morceaux de sketch que je faisais dans mes stand-up sur les plateaux. Donc, je savais que je voulais intégrer certaines parties de ces sketchs dans le spectacle. Mais c'est seulement à partir du moment où on m'a proposé de le faire, où j'ai eu la chance, l'opportunité m'a été offerte d'avoir mon spectacle là-bas, que j'ai vraiment réfléchi à un concept. Et donc, ça, c'était, je dirais, effectivement un an avant la première que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je voulais raconter, quelle thématique je voulais aborder, la féminité, la sensualité, l'autocritique aussi, la séduction, tout ça. Et c'est à partir après, ça a pris quelques mois et je pense que... Et je travaille beaucoup à la dernière minute. Je sais pas pourquoi je me mets dans des états pareils, mais... c'est comme ça que je pense que je fonctionne, que ma créativité fonctionne le mieux. Et je pense qu'après, j'ai commencé à vraiment écrire le projet vers le printemps avant, donc mai, juin. Et les répétitions, c'était en octobre, septembre-octobre. Et donc, septembre-octobre, je me suis remise à table avec le metteur en scène pour réécrire pendant un mois entier, ce qui n'allait pas dans mes versions brouillon précédentes que j'aimais pas. Et voilà, et vers mi-octobre, fin octobre, on avait une version qu'on aimait bien. Et la première, c'était deux semaines plus tard.
Ça va. Oui, et tu le disais justement avec le metteur en scène aussi, tu as dû travailler à enlever des petits tics de langage, etc., justement issus du stand-up.
Oui, des tics de stand-up.
Donc d'un côté, ça t'a aidé d'avoir ces open mic, mais d'un autre, il fallait enlever, il fallait gommer un peu.
C'était une gymnastique un peu compliquée à prendre. Déjà dans le stand-up, j'ai dû moi-même apprendre certains tics.
Ouais.
Comment ça va ce soir, moi ça comme ci, ça comme ça, par applaudissement, alors que c'est des choses qui pour moi sont pas naturelles, mm-hmm. même dans mon écriture, de me forcer à dire ah, ça. Ouais. Et puis personne me force hein, de toute manière, mais c'est moi qui, en allant à un plateau puis à un autre, qui me disais « Ah, ok, c'est comme ça, ça c'est le code, ok. » Et comme le spectacle s'orientait plus vers un seul en scène théâtrale qui mélange stand-up, cabaret, mm-hmm. plutôt que un stand-up classique, et que surtout que je n'avais pas de micro, là où effectivement avec le stand-up, avec le micro, on se repose un peu sur le fait qu'on a un micro, donc on projette ouais. un peu moins la voix, on articule moins, on parle un peu plus dans sa barbe. Comme le metteur en scène m'a dit « Ok, pas de micro », comme au théâtre, du coup, il va falloir projeter, jouer un peu plus, etc. Et on évite tous les vous voyez genre tous les tics ou et tous les et tous les moments, enfin bref, je vous laisse imaginer tous les petits tics qu'il peut y avoir, mais donc tous les trucs où je m'adressais, enfin c'était comment s'adresser au public sans s'adresser au public littéralement s'adresser, le regarder, le parler, leur parler, les regarder dans les yeux, sans faire trop d'interactions personnelles, même si par moments, effectivement, j'ai pu improviser une fois que j'étais à l'aise avec le texte, mm-hmm. Quand certaines personnes du public réagissaient, ça me permettait de rebondir sur ce qu'ils disaient, mais je repartais très vite dans mon texte. Je ne me lançais pas dans une longue improvisation de 10 minutes. Ce n'est pas mon style. Il y a des gens qui font ça très bien, mais moi pas. Donc voilà un peu tout ce que je peux dire là-dessus.
Du coup, tu crois que c'est quel type de public que tu as attiré comme ça à ton spectacle? C'est plus des gens qui s'attendaient à, entre guillemets, du stand-up, ou des gens vraiment qui s'attendaient à du théâtre, ou des gens qui venaient pour la pole, pour le burlesque, pour le doublage?
C'est très étonnant parce que, enfin, même mon metteur en scène et mon amie Lucie, on a été très surpris par ça. Le public était très varié. Je me disais, est-ce que je vais attirer que des jeunes ou est-ce que je vais attirer que les vieux abonnés? C'était un mélange des deux et c'était vraiment hyper varié en termes de classe sociale aussi, d'âge. Les personnes plus âgées rigolaient un peu moins parce qu'elles captaient pas toutes les références qui étaient très modernes. Mais apparemment, ça les a pas empêchés d'apprécier le spectacle et de se reconnaître même dans certains trucs. Donc, donc ça c'était une agréable surprise. Et puis de voir que c'était complet tous les soirs, c'était assez inespéré aussi.
Oui, oui, c'était au TTO en plus, donc une très belle salle, ça devait
être... La petite salle, mais très belle salle quand même.
ça t'a fait quoi comme ça d'avoir ta première dans cette salle-là? Comment t'as vécu en fait ce premier soir, cette première date?
La première date, j'étais pas très contente de moi. On avait fait 2-3 répètes publiques avant aussi. Mais j'étais un peu en pilote automatique. J'étais pas très fière de moi, mais le public était content. Mais c'est toujours ça. La première, on n'est jamais très satisfait. Mm-hmm. Surtout quand on est tout seul sur scène, c'est compliqué. Ouais. On se jette vraiment dans le vide et tout. Et comme le public est différent d'un soir à l'autre, il réagit pas aux mêmes endroits ou pas avec la même intensité.
Ouais.
C'était un peu compliqué de trouver mon rythme de croisière. Mais une fois que je l'ai trouvé, j'étais contente.
Tu t'es sentie de plus en plus à l'aise comme ça au fur et à mesure des représentations?
Oui, oui, oui.
Et le dernier soir, comment tu l'as vécu du coup?
Comme une libération. Parce que ça faisait 5 semaines.
Oui, c'est beaucoup.
Ça faisait 5 semaines. Et comme c'est sportif, parce que j'ai eu la merveilleuse idée de faire du sport pendant le spectacle, j'étais assez épuisée, j'étais sur les rotules. Et donc, j'étais contente quand ça s'est terminé parce que je pouvais enfin dormir. Parce que avec l'adrénaline et tout, même si le spectacle dure 1 heure, le temps de papoter avec les gens après, prendre un verre pendant 1 heure ou 2, rentrer chez moi, manger, me faire à manger, me détendre. Donc, quand je déconnecte, il faut toujours que je regarde un petit truc à la télé pour lâcher la pression. je me couchais jamais avant 2h, parfois 3h du mat. Et le lendemain, c'est impossible d'avoir des trucs. Si j'ai des trucs, du coup, je me levais tôt et j'étais complètement défractale. donc c'était, oui, j'étais un peu en décalé, quoi, surtout ouais. avec autant de semaines. Mais c'est une belle expérience, mm-hmm. c'est très enrichissant.
Et quelle est la suite maintenant pour ce spectacle? Est-ce qu'on va pouvoir le voir encore ailleurs?
Mais il sera repris au TTO entre décembre et janvier.
Trop bien.
Il va faire quelques dates en Wallonie en novembre, avant la reprise au TTO. Et j'aimerais bien qu'il tourne en France, mais je n'ai pas encore de date ni de réponse.
Oui, tu penses que c'est vraiment un spectacle qui peut toucher un public français aussi?
Mais oui, tout à fait. Surtout que mes statistiques Instagram me montrent que j'ai plus de followers français que belges.
Ah, ouais.
Et dans les messages privés, j'en ai reçu plein qui me disaient « Mais quand est-ce que tu joues à Paris, à Lyon, à Strasbourg, à droite, à gauche ?» Donc je sens qu'il y a une envie et moi je sens que ça pourrait marcher dans des petites salles encore puisque je suis pas connue non plus. Et que c'est un message qui pourrait plaire au public français.
Ouais.
Mais malheureusement, la France, le secteur théâtral me semble assez bouché. Les programmations se font 1-2 ans à l'avance.
Ah ouais.
Mais j'aurais juste quand même aimé une réponse. Je n'ai juste pas de réponse pour le moment. Et ça, c'est frustrant.
Je pense qu'il y a peu de Français qui écoutent, mais on ne sait jamais. Peut-être que le message passe. Mais tu le disais dans le podcast de Bilal que c'est un spectacle justement plus fait pour les petites salles.
Mm-hmm.
Donc, t'estimes qu'un jour, c'est possible de le faire grandir pour aller dans des plus grandes salles ou tu veux garder cet aspect petite
salle?
Non,
parce que je pense que maximum 200 personnes, mais plus. Comme c'est un spectacle qui se veut intimiste,
ouais.
ça n'aurait pas de sens de le faire dans une salle de 500 personnes. Pardon. Ça perdrait, je trouve, de sa magie, ouais. Entre guillemets. Et oui, non. Mm-hmm. Ce sera peut-être autre chose, alors. Un spectacle Daphné sur des claquettes, en rollerblades, au Palais des Glaces, je ne sais pas.
Tout est possible. Et à côté de tout ça, tu fais aussi du doublage de la voix off, notamment pour Jardins et Loisirs. C'est quand même marrant de voir ça à côté
j'ai fait
de
Jardins et Loisirs pendant 5 ans.
Oui.
Maintenant, c'est terminé parce que la version télé, c'est fini.
Mm-hmm.
Donc, ils se sont concentrés sur une version Internet. Ils n'avaient plus besoin de voix off. Mais c'était une chouette expérience. J'y allais tous les mercredis à la RTBF à Charleroi. J'ai mes petites habitudes, ma petite carte Sodexo.
C'est important.
Et non, c'était très très chouette. Et du coup, là, je cherche encore de temps en temps. Bah, là, il y a quelques jours, j'ai fait de la voix off pour une pub radio pour Mobile Vikings.
Mm-hmm.
Très marrant aussi. Donc voilà, doublage aussi. Je fais souvent à Studio Sens et à un studio HL qui s'occupe de tout ce qui est... c'est eux qui ont fait les quadrilles, Plopsaland, Maya l'Abeille, tout ça. Donc là aussi, j'ai mes petites habitudes.
Excellent.
Et c'est toujours cool d'y travailler.
Oui, tu fais beaucoup aussi de dessins animés. Ça te plaît comme ça de mettre ta voix sur un personnage?
Oui, j'adore. C'est trop drôle. Et puis avec mon directeur artistique, Tristan, on s'entend trop trop bien. On rigole vachement. Donc c'est toujours un plaisir d'aller là-bas, m'enfermer dans une salle obscure pendant 4 heures minimum.
Oui, c'est vraiment par ton rôle d'acting que tu as eu envie de faire du doublage. Enfin, c'est venu naturellement ou c'est des propositions que tu as reçues? Comment ça s'est fait en fait?
De toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traverse l'esprit de tous les comédiens et comédiennes à un moment donné, puisque ça fait du travail en plus quand on arrive à y accéder. Mais là aussi, c'est un milieu très très fermé.
Ah oui.
Même moi, j'ai pas le pied partout parce que j'ai vite eu la flemme de contacter tout le monde. Là où on nous disait toujours que si vous voulez faire du doublage constamment, il faut appeler les directeurs artistiques, venir assister à des enregistrements pour que peut-être à la fin, s'ils ont du temps, ils te fassent passer un essai.
Ah,
mais c'est pas sûr, donc tu dois revenir s'ils le font pas. Donc c'était beaucoup de temps et d'investissement. Je l'ai fait avec quelques personnes, mais je l'ai peut-être pas autant fait que certains de mes collègues qui, eux, travaillent dans le doublage constamment. Donc voilà, moi j'ai des missions plus ponctuelles, mais ça me va aussi. Et je suis très contente de le faire parce que c'est vraiment un autre univers et le fait d'être acteur, bah forcément, ça aide, quoi.
Mm-hmm. Comment t'organises ton temps entre tout ça?
Je ne l'organise pas. Et en même temps, je l'organise. C'est très bizarre parce que je suis quelqu'un de très organisé. J'adore prévoir, planifier des choses à l'avance.
Ouais.
Réserver, faire des résas et tout. Mais c'est de la réservation, souvent dernière minute aussi, parce que tout change, quoi.
Ouais.
Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que je vis au petit bonheur la chance, quoi.
Ouais. Oui, parce que tu le disais, parfois tu as des missions qui peuvent arriver vraiment quelques jours avant.
Oui.
Enfin, c'est dur d'organiser vraiment ton mois, quoi.
Oui, tout à fait. Mais après, comme du coup, j'ai plus, entre guillemets, pas de travail que du travail. Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Enfin, ça arrive vraiment d'un coup. J'ai des grosses périodes de travail et ça arrive en même temps. Tout arrive en même temps. C'est insupportable. On ne dort plus pendant des semaines. Et puis après, c'est le vide intersidéral pendant des semaines aussi.
Ah ouais, ouais.
Mais un jour, t'es là, aux étangs d'Ixelles, à regarder les canards, puis le téléphone sonne, on te dit ah, « Est-ce que tu peux passer un casting demain ou après-demain ?»« Oui, ok !» Donc, il faut être très flexible très... Oui, j'allais dire avoir une adaptabilité, mais ça, c'est peut-être un mot anglais. C'est peut-être un anglicisme que je fais.
Je crois que ça se dit en français.
Pouvoir jongler avec les horaires et annuler d'autres choses et mettre ses priorités là où on veut les mettre.
Ouais, ouais. Et c'est difficile pour toi de le faire. Enfin, comment se porte ta santé mentale par rapport à ça?
Bah, écoute, ça va. juste dernièrement, ça va un peu moins parce que j'ai l'impression que... Je m'en veux de dire ça parce que j'ai un projet à la fin de l'année, je reprends le spectacle.
Ouais.
Et c'est une chance inouïe, c'est extraordinaire, il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance. Mais entre maintenant et novembre, j'ai rien, entre guillemets.
Ah ouais, c'est plus flou.
Si, j'ai un petit tournage fin juillet. Disons que je n'ai pas vraiment de... Et comme je n'ai pas de réponse des programmateurs français, je suis un peu dans l'attente de ça... Je vis un peu ma vie au jour le jour, un jour pousse l'autre, comme on dit.
Ouais.
Et c'est difficile de ne pas se comparer. J'ai l'impression que même si on a beaucoup de succès et beaucoup de travail, on se compare sans cesse aux autres acteurs et actrices de notre entourage. C'est difficile de ne pas se comparer, alors qu'on est tous et toutes dans la même situation, je pense, à des degrés différents. On traverse des périodes où on bosse tout le temps et d'autres périodes où on ne fait rien. Et quand on ne fait rien, on regarde les autres qui bossent et on fait... Ah, ben moi j'aimerais bien qu'on m'appelle pour tel projet, j'aimerais bien réussir tel casting un jour. Mais voilà, tout vient à point à qui c'est attendre. Et si ça vient pas, c'est que c'est meant to be comme ça. Et mon petit ventre fait le bruit.
Oui, je l'ai entendu cette fois. Et du coup, c'est le statut d'artiste qui te permet d'avoir une stabilité financière.
Heureusement que j'ai le statut d'artiste que j'ai eu pendant le Covid ou peu après.
Ah ouais.
Parce que j'avais beaucoup travaillé juste avant.
Ouais.
Donc ça, c'était une grande chance. Mais le statut d'artiste me permet de dormir tranquille. Et je considère qu'il me paye, du coup, pour tout le travail impayé que je fais, comme l'écriture, les castings, me déplacer au casting, rater les castings, la préparation de casting, me filmer, ou envoyer mes mails, faire des trucs comme ça. Donc je ne considère pas que c'est de l'argent... À tous les détracteurs du statut d'artiste, je leur dis que ça nous paye. Moi, je considère que ça me paye pour tout le travail invisibilisé.
Et pour toute la création de contenu, en fait, parce que
aussi.
Ça non plus, tu ne gagnes pas d'argent.
Non.
Comment c'est venu, ça, cette envie de faire ces vidéos sur Internet, justement? Et de même de publier de manière générale. Il y a aussi les photos.
Ça, j'ai toujours aimé, depuis l'époque des Skyblogs, moi j'ai toujours été online. Skyblog, MySpace, j'étais partout. J'étais même sur Vampire Freaks, les vrais
savent. Ça,
c'était un site de rencontre pour les émo-gothiques.
Oh.
Voilà.
C'est excellent.
Et j'ai rencontré mon premier mec comme ça. Voilà. Et donc j'ai toujours été fan de ce genre de communication. YouTube aussi, tout ça à l'époque, quand ça commençait, je faisais des vidéos YouTube avec un pote à l'époque. C'était très très drôle. Et puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai jamais aimé me cacher, donc j'ai toujours posté plein de trucs. Et ça me permettait aussi de me mettre en scène comme je voulais. Et Instagram, bah oui, je crois que comme tout le monde, j'ai commencé à être dessus en 2014, un truc comme ça. Je postais juste des photos. Et quand les hashtags ont commencé, j'ai mis des hashtags. Puis après, avec le burlesque et tout ça, j'ai commencé à rencontrer plein de monde. Et puis de fil en aiguille, Insta est devenu ce qu'il est devenu. Et les vidéos, quand on pouvait commencer à poster des reels, des vidéos, des montages assez faciles d'accès, c'est juste devenu spontané pour moi l'idée de faire des blagues, des petites vidéos rigolotes sans arrière-pensée. C'était vraiment pas dans un but de ramasser des followers et des trucs comme ça. Puisqu'à l'époque, en plus, quand ça a commencé, l'algorithme ne faisait pas en sorte que forcément on gagne plus de followers, je crois. Donc c'était juste pour le plaisir de faire du lol, quoi.
Et ça, c'était avant le stand-up ?
Juste avant, oui. Un peu avant.
Trop bien. Ouais, et sur ton Insta, on peut voir donc le burlesque, la pole dance, justement les blagues, on peut voir le doublage, on peut te suivre vraiment dans plein d'univers différents. Du coup, est-ce que tu t'es dit, je montre tout, je montre qui je suis et tout ce que je fais ?
Oui.
C'est direct
ça ? Oui, parce que la question s'est posée à un moment donné, on m'a posé la question aussi, mais pourquoi tu fais pas un Insta différent pour le burlesque, un Insta différent pour l'acting, un Insta différent pour la photo, parce que je fais aussi pas mal de photos argentiques à mes heures perdues, mais vraiment, ça, c'est vraiment un passe-temps. Je me suis dit, mais en fait, non, j'ai pas le time d'avoir plusieurs comptes différents, et encore moins d'essayer d'avoir des followers à droite, à gauche.
Ouais, ouais.
Et c'est ça que j'aime bien sur mon Insta aussi, c'est qu'il n'y a aucune ligne directrice. Vraiment aucune. Un coup, on peut avoir une blague, un coup, on peut voir mon cul. Et c'est vraiment Kinder Surprise. Quoi. Et les gens me suivent. En fait, les gens me suivent pour plusieurs raisons. Et il y en a qui m'ont suivi pour le burlesque, d'autres qui m'ont suivi pour le stand-up, d'autres qui me suivent parce qu'ils ont vu mes vidéos rigolotes. Ils se sont dit, ah, j'adore son contenu, j'espère qu'elle va poster d'autres vidéos rigolotes. Et quand ils voient que je poste mon cul, hop, vague de désabonnement. Donc ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Donc j'ai posté quoi ? Des photos en lingerie, ça faisait longtemps. Mm-hmm. Une petite lingerie rose. Alors que j'avais je crois, à ce moment-là, j'avais 450 followers. Et le soir, après avoir posté ces photos, j'en ai eu 60 de moins. Enfin,
c'est fou.
Voilà. Et après, j'ai dit, j'arrête de regarder. Parce que...
ouais. Oui, ça doit être dur justement ces chiffres-là parce qu'en fait c'est énorme, 21 000 déjà. Mais ça doit être dur de se dire, ok, en fait c'est que un chiffre,
oui.
ce nombre d'abonnés.
Oui, c'est qu'un chiffre et les gens s'abonnent pour plein de raisons et se désabonnent parce qu'ils ne veulent pas voir, me voir en petite culotte, ce que je comprends tout à fait. Hein. Et puis il y en a d'autres qui restent, qui sont là parce qu'il y avait les petites culottes. Je dis, tiens, elle fait des blagues aussi, mais trop marrant.
Ou alors, oh, putain, on en a marre de ces blagues, on veut des petites culottes.
On veut entendu. Donc, et c'est vraiment drôle parce que pendant tout un temps aussi avec les statistiques, je pouvais voir que j'avais un peu plus de mecs qui me followaient. Puis après, c'était 50-50. Et maintenant, je crois que je suis presque à 80% de meufs qui me suivent.
Ah ouais, c'est énorme.
Donc, c'est vraiment marrant enfin, de constater en tout cas l'évolution du following. C'est là que j'ai constaté aussi qu'il y en avait beaucoup qui étaient à Paris, la plupart d'entre eux d'ailleurs. Donc please Paris, achetez mon spectacle. Mais ouais, pour répondre à ta question qui était là, je me suis un peu perdue, mais sur les followers, tu disais
ah oui que c'était juste un nombre finalement.
Oui c'est juste un nombre et c'est pour ça aussi que franchement c'est pas plus mal de déconnecter de temps en temps parce que quand on a trop l'œil sur la visibilité, le reach, combien de gens ont liké, combien de gens ont partagé, qui a regardé la story, pourquoi. À partir de là, quand je suis trop focus là-dessus, je me dis pas sain.
Ah ouais.
Je m'en vais, je déconnecte pendant quelques jours et je reviendrai quand je passerai pas mon temps à perdre mon temps. Voilà.
Et tu le fais facilement ?
Là, hier, j'ai eu un petit ras-le-bol. J'avais posté plein de stories, t'as vu, répondant à des questions. Et sous le coup de l'impulsivité, j'ai supprimé toutes mes stories. Et je me suis dit, j'en ai marre. Et j'ai enlevé Instagram depuis ce matin nouveau. Ouais. Donc j'ai regardé, mais sans prévenir cette fois. Alors qu'avant, je disais, je suis plus là, contactez-moi sur WhatsApp. Là, je me suis dit, mais tout le monde en a rien à branler, que je sois là ou pas. J'ai qu'à supprimer l'appli. Et de toute façon, je regarde toujours si j'ai des messages sur l'ordinateur. Ouais. C'est là que j'ai regardé si tu m'avais écrit sur mon petit ordi. Et j'ai juste rien à poster, rien à scroller. Personne va se dire « Oh mon Dieu, Daphné n'a rien posté pendant 5 jours, il y a un problème !» Je reviendrai quand il faut, quand je sens que je serai plus en paix avec ça.
Ouais, c'est ça. Et ton compte s'appelle It's Daphne Beach.
Oui.
En référence à la Queen, c'est ça?
Britney, yes, the one and only Queen Bee, the real one.
Oui, je me souviens de ce débat dans le podcast de Bilal, justement. On va peut-être pas le recommencer.
Pardon, Bilal.
Je t'aime. Mais ouais, ben, enfin, explique un peu du coup pourquoi t'as eu envie comme ça de suivre cette vague Britney Spears, Britney Beach. Tu vois, on l'entend aussi dans ton spectacle. Tu commences par cette musique aussi. Pourquoi ce fanatisme envers Britney Spears? Je veux pas dire fanatisme, c'est pas un mot.
C'est un peu péjoratif. Oui, je suis un petit peu vexée.
C'est pas positif, pardon. C'est admiration. C'est admiration pour Britney.
Mais ce n'est pas venu d'un coup d'un seul. Ça a toujours été là. Faut savoir qu'à l'époque j'étais fan de Britney, mais surtout de Jennifer Lopez aussi. Donc j'ai un grand amour personnel pour J-Lo, malgré tout le backlash qu'elle se reçoit sur les réseaux sociaux en ce moment.
Pas suivi ça.
Ah là là, mon Dieu, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est pas à cause de son film, de son documentaire, les gens se moquent d'elle. Bref, pray for J-Lo. Mais Britney, pour moi, elle a vraiment symboliser toute mon adolescence, mon enfance, mon éveil à ma sexualité, à ma sensualité surtout. Et quand je m'amusais dans ma salle de bain ou en prenant des photos, ben c'est en imitant mes stars préférées. Ouais. Les poses, je les ai pas inventées de derrière les fagots. C'est tous les posters, cet extra que j'avais dans ma chambre que j'essayais de reproduire.
Trop bien.
Et donc Britney, j'ai suivi toute sa discographie et je trouve que il y a une sensibilité en elle qu'on retrouve pas partout et aussi parce qu'elle a tellement été moquée, surtout je me rappelle encore quand on était plus jeune, on disait ah, putain t'écoutes du Britney Spears, c'est pas de la vraie musique, putain c'est du vomi pour les oreilles, elle sait pas chanter. C'était un peu en rébellion contre ça que j'ai un peu porté mon amour pour Britney en étendard. Surtout que maintenant, il y a des articles, je sais pas moi, dans Les Inrock, Pitchfork, Rock and Folk, pour dire à quel point Britney c'est formidable. Donc oui, merci, moi je l'ai su 20 ans avant tout le monde. Nous, on l'a su, on était là. Donc voilà, et quand tu fais écouter Britney aussi à certains mecs qui sont bien assis sur la position, genre non mais écoute, c'est pas de la vraie musique, et tu leur fais écouter 2-3 trucs que personne connaît, waouh, c'est sympa, c'est Britney ça, waouh, c'est génial. Et de toute façon, même ceux qui disent qu'ils aiment pas, ils aiment tous Toxic.
Oui,
donc à partir de là, il n'y a pas de débat.
On est d'accord. Mais tu disais ouais, que tu vois, tu les imitais comme ça par rapport aux posters dans ta chambre et tout. Tu penses pas que s'il y a beaucoup de meufs qui te suivent sur les réseaux, c'est aussi pour ça, c'est parce que bah, d'un côté, tu leur donnes confiance en elles, peut-être en osant te montrer, en osant... Bah, tu rends ça à la fois, tes photos sont super canon, sexy et tout, mais tu rends ça aussi marrant, aussi vrai, etc. Tu crois pas que t'inspires aussi beaucoup de meufs?
Mais je le fais pas pour ça, mais je sens que c'est le cas parce que je reçois souvent des messages, de très gentils messages pour me dire que ce que je fais a du sens, alors que c'est vraiment pas... dans le but que ça ait du sens, c'est vraiment juste pour me faire plaisir. Mais si justement c'est pas vain et si ça a une portée positive, alors je suis d'autant plus contente. Mais je vais pas non plus laisser ça me monter à la tête et,
ouais, c'est ça.
Et dire oh, mais ce que je fais c'est super important. Non, c'est je voilà, je poste des photos de moi à poil et des vidéos rigolotes et comprenne qui voudra et vous en faites ce que vous voulez. Mais s'il y a une démarche plus ou moins politique, même si j'aime pas ce terme, derrière, ce serait celle de dire que on a le droit d'être qui on veut quand on veut et et que rien n'est paradoxal, quoi. On a le droit d'être drôle et sexy, on a le droit d'être intelligente et d'aimer porter du rose ou les choses girly et ainsi de suite, quoi.
Oui, c'est ça, tu veux pas être une porte-parole entre guillemets, mais tant mieux si ça aide, quoi.
Oui, c'est ça, et puis c'est vraiment pour aider à contrer, si ça aide à contrer 2-3 préjugés sur le fait qu'on doit être juste comme ça ou juste comme ça, alors c'est tout bénef.
Ça t'aide aussi, toi, parce qu'au début de l'interview, tu disais que voilà, bah, t'avais encore aussi des complexes, des choses que t'aimais pas toujours, etc. Ces photos-là, ça t'aide à prendre confiance, justement?
C'est vrai que quand j'ai des moments de down, parfois je retourne voir mes photos ou mes accomplissements passés. Et je me dis, mais regarde, t'as été cette bad bitch là, donc tu peux encore l'être, il n'y a pas de problème. C'est pas qu'une histoire de lumière. Donc oui, franchement, ça m'aide aussi.
Et par contre, sur les réseaux, bah, y a tous les gens cool, mais il y a aussi tous les haters, justement, que tu as aussi sur tes vidéos. Bah, ouais, je regardais encore ta vidéo qui est géniale, d'avoir 30 ans en festival. Franchement, je me suis retrouvée là-dedans. Et, mais il y a plein de commentaires hyper négatifs, quoi. Et...
Moi, j'ai été étonnée parce que, du nombre de commentaires idiots sur une vidéo complètement innocente, quoi. Je ne montre pas mes fesses. Et j'ai peut-être... oui, j'ai une tenue... j'ai quoi ? J'ai un t-shirt Blowjob Queen et un... et un haut de bikini, ouais. Bon, comme n'importe quel festival, j'ai envie de dire. Et c'est pas une vidéo qui parle de cul non plus. Enfin, donc, j'ai été assez étonnée de la véhémence de certains commentaires et de l'idiotie de certains commentaires. Et même du partir du principe, tu peux être sur le pot en train de chier et en train de scroller et de voir ça et te dire « c'est nul », mais de là à le commenter.
Ouais, c'est ça, passe à la suite en fait.
Donc, mais c'était même pas des commentaires en plus sur le fait que la vidéo était nulle, c'était des commentaires sur ma personne,
ouais.
Sur parce qu'après ils allaient scroller mon Instagram et donc ils disaient oh là là cette meuf là incapable de trouver un mec sur le marché des relations longues. Et je dis, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, rien à voir.
Non non.
Donc oui, mais ça vient par vagues. Les pires c'est ceux que je reçois. J'en reçois pas mal aussi sous mes vidéos de masculinistes. Mais en dehors de ce genre de vidéos, j'ai pas trop, j'ai la chance de pas avoir trop de haters. Peut-être justement parce que je suis pas trop spécialisée dans un truc. Je sais pas. Si je postais régulièrement des vidéos ou même sur YouTube, ou si j'avais un contenu peut-être plus politique, là ce serait peut-être plus problématique. Et je le vois, j'ai des copines qui font un travail de dingue et du contenu. Un peu militant, même quand elles font du contenu pas militant, du coup, elles se font bâcher non-stop, quoi.
Toi, t'as déjà vécu du harcèlement comme ça sur les réseaux ?
Un petit peu. Il y en a un qui m'a fait très très peur, mais c'était pendant le Covid.
Ah ouais.
Et depuis, j'ai plus de nouvelles de ce fou furieux. Mais qui m'avait insulté, puis qui m'avait menacé d'appeler les avocats, ce genre de truc. Et pendant 2-3 jours, il m'a poursuivi comme ça. Puis après, j'ai décidé de ne pas lui accorder l'importance qu'il voulait que je lui donne. Et c'est mort dans l'œuf. Mais je sais qu'il y a beaucoup de camarades qui n'ont pas cette chance. Je pense notamment à Myriam Leroy ou à Florence Hénaud, que je suis et qui me suivent aussi, qui sont extraordinaires. Et je ne comprends pas comment la haine envers elles peut continuer comme ça. Ça n'a aucun sens, quoi.
Ouais, ouais.
Aucun sens.
Mais oui, et ça fait peur, en fait, parce que, enfin, il n'y a rien à faire, mais c'est aussi être une femme sur les réseaux. Et c'est comme le harcèlement de rue, etc. C'est limite... commun, entre guillemets, alors que ça devrait pas exister, quoi. Et ça doit te faire peur, peut-être, parfois, d'arriver à des stades comme elle.
Oui, mais j'y pense pas trop. Parce que sinon, à partir du moment où on est une femme sur Internet, on est en danger. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés, disent certains. Mais si tu veux effectivement rien risquer, ne poste rien, quoi. Il y en a qui postent rien, c'est très bien, et qui sont juste là pour regarder. Il y a plein d'Instagram de gens qui sont là que pour regarder.
Oui, c'est clair.
Mais moi, j'ai envie de poster, et voilà. Donc, advienne que pourra, mais pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai pas eu de trop gros problèmes.
Et continue, parce que c'est marrant.
Merci.
Il y a un autre gros projet, ton premier film.
Oui.
Quand est-ce qu'on peut espérer pouvoir le voir ?
C'est une bonne question, je me la pose tous les jours. Mais ce n'est pas mon premier film, c'est notre premier film avec mon amie Lucie Matto. Ça fait 3 ans qu'on l'écrit maintenant, qu'on le réécrit. Et c'était un processus compliqué parce qu'on a dû apprendre le métier de scénariste sur le tas aussi, puisqu'on n'a fait aucune formation de scénario avant. Ouais. Donc on y est vraiment allé au culot avec nos grosses couillasses et nos gros overas. Et ça a marché. Et le pire, c'est que ça a marché. Donc franchement, fake it till you make it, c'est vrai.
Ouais.
Ça marche vraiment. ça marche vraiment. Et surtout, je pense que peut-être qu'on a eu une bonne idée au bon moment et qu'on a eu la chance d'être accompagné très vite par un producteur qui a aimé notre pitch et d'avoir eu l'aide à l'écriture de la commission, l'aide au développement aussi, ce qui sont des étapes obligatoires et compliquées dans le processus d'un film en Belgique. Et donc là, on a déposé pour l'aide à la production et on passe devant le jury fin mai. Donc on verra si on l'a ou pas. On espère qu'on l'aura. Et si on l'a, alors notre producteur pourra débloquer, commencer à faire des recherches de coprod, de financement, d'acheteurs, revendeurs, diffuseurs, etc. Ouais. Donc c'est long. Et pour tourner le film, du coup, comme c'est un film assez ambitieux, on va devoir avoir beaucoup de préparation en amont, beaucoup de répétitions. Donc, à mon avis, pas de tournage avant l'année prochaine minimum. Mm-hmm. On espère, en tout cas, parce que là, on aimerait vraiment bien que les choses sérieuses commencent. Donc, j'espère une diffusion en salle en 2026. Mm-hmm. Ça, c'est le plus tôt qu'on puisse espérer. 2026, ce serait le plus tôt. Mm-hmm.
Et tu joueras dedans aussi ?
Oui.
Oui, trop bien.
On écrit nos propres rôles avec Lucie, parce que justement, suite à notre ras-le-bol du monde impitoyable des castings, etc., s'est dit qu'on n'allait pas attendre que le téléphone sonne, qu'on n'était pas les frites les moins salées du séchet, et qu'on pouvait très bien écrire nos propres rôles avec l'histoire de nos rêves et qui nous botte vraiment. Donc, c'est
trop
l'objectif
bien,
aussi.
Trop bien. Tu peux déjà un peu dire ce que c'est, le pitch ?
C'est l'histoire, ça s'appelle California Dreaming, et c'est l'histoire de deux meilleures copines trentenaires, complètement loseuses, dont le seul revenu, c'est leur chien, Bukake, qui fait des publicités. C'est un chien de publicité, Bukake. Mais Bukake est dépressif, il fait des tentatives de suicide, il ne veut pas être chien de publicité. Anyway, mais donc, urgence, s'il essaye de se suicider, plus d'argent, donc il faut absolument le sauver le plus vite possible. Le vétérinaire, ça ne marche pas, donc elles ont trouvé une chamane guérisseuse d'animaux à l'autre bout de la Wallonie.
J'adore.
Donc, ni une ni deux, elles prennent leur petite tuture et elles y vont. Mais c'est sans compter sur l'intervention d'un serial killer qui terrifie la Wallonie et qui va les suivre. Tintintin. Mais c'est une comédie avec du sang.
Et c'est quelle race de chien, Bukake ?
Un carlin, c'est un petit pug.
Parfait. Et vous avez déjà une idée comme ça des acteurs et actrices que vous voulez dans votre film ?
On a une idée, et puis on doit avoir des idées parce que pour la commission, il faut donner une liste de noms pressentis, de gens qui ont accepté ou de gens auxquels on pense. Et de toute façon, il va falloir faire un énorme processus de casting parce qu'il y a beaucoup de petits rôles. Il y a des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles par-ci par-là, mais tous aussi jouissifs les uns que les autres, en tout cas on trouve. Donc ça va être un travail de longue haleine pour trouver les gens qui correspondent à chaque petit rôle qu'on veut attribuer. C'était quoi la question ? Pardon, j'ai perdu.
C'était justement si vous avez déjà les acteurs et actrices.
On a quelques noms que je ne pense pas qu'on peut communiquer là tout de suite. Et puis il faudra 2-3 noms un peu 4 étoiles pour rassurer les acheteurs potentiels. Mm-hmm. Donc on y travaille.
Trop bien. Et j'ai entendu que cette envie de faire un film s'était née en regardant un film, vous deux, avec des joints. Et hop, on s'est dit, en fait, on créerait bien film aussi.
C'est absolument ça. On était dans le canapé, là, derrière. On fumait des gros jokos. Et on regardait Romy et Michel. Il me semble que c'était Romy et Michel qu'on regardait à ce moment-là. Un super film. Je vous le conseille. Il est sur Disney+. Et c'est ma pote Lucie qui se retourne vers moi et qui dit, mais enfin, mais il n'y a pas de film comme ça en Belgique. Pourquoi Mais pourquoi on le ferait pas et tout ? Et j'ai dit, tu sais quoi ? Allez, moi je connais des gens, c'est bon. Laisse-moi tirer 2-3 ficelles et on y va, quoi. Elle fait, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Donc, 3 jours après, ça a commencé.
C'est trop bien.
Alors qu'on n'avait pas d'histoire. Aucune histoire. Juste l'envie de faire un film girly en Wallonie parce qu'il n'y en avait pas. Donc, voilà.
C'est trop bien. T'as souvent des idées comme ça où tu te dis, bon, en fait, je vais le faire. Ok, c'est parti.
Je crois que c'est ce qui résume toute ma carrière. Que ce soit pour le stand-up, le burlesque, la peau, l'acting, le scénario, c'est « Oh, bah j'ai envie de faire ça, on y va !»« Oh, j'ai pas le diplôme, c'est pas grave, on y va !»
Trop bien.
Donc, je le fais pas exprès, Mais force est de constater que maintenant que j'ai une carrière professionnelle depuis 10 ans, ouais, ou ouais, presque, que c'est comme ça que je fonctionne. Alors oui, j'ai une zine et on y va, quoi.
Et tu ressens pas de syndrome de l'imposteur par rapport à ça ?
Si, mais non.
Bah, t'y vas quand même.
Si, mais je me dis, ben oui, mais il faut y aller. J'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur pour mon stand-up, mon One Woman Show, en me disant, mais enfin, pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que j'ai la chance de faire mon spectacle là maintenant tout de suite, alors que ça fait 2 ans que je suis dans le milieu et d'autres qui galèrent plus longtemps ? Mm-hmm. Est-ce que je vole pas la place de quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est pas ridicule ce que j'ai à raconter, etc. Pour le scénario, c'est pareil, parce qu'on s'est dit, mais what ? On n'a pas fait d'études de cinéma. On est là avec nos belles idées, notre talent, et on se dit, tiens, allez hop, on a cette super idée, engagez-nous. Et c'est arrivé.
Ouais, ouais.
Malgré le fait que personne ne nous demande notre diplôme, en fait. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas toi, mais moi, jusqu'ici, mon diplôme, il est là, d'actrice. Personne ne m'a demandé, pour tout ce que j'ai fait dans ma carrière, de preuve de diplôme de prof de pôle, diplôme d'actrice, diplôme de doublage, diplôme de scénario. On ne m'a jamais demandé ça. Mm-hmm. Donc, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais en tout cas, moi, il suffisait que j'ai envie de quelque chose. Et j'ai faim encore, pardon. Je crois que j'ai envie d'une grande frite, surtout. Il suffisait que j'ai envie de quelque chose et... Après, c'est moi avec ma conscience, je fais une formation ou pas, ouais, notamment pour les cours de pôle, j'ai suivi une formation, des choses comme ça. Là, avec le scénario, la formation, c'est surtout sur le tas.
Ouais.
Mais il suffit que j'ai envie de faire quelque chose et je le fais.
Oui, du coup, les formations, c'est plus pour te légitimer toi-même plutôt que de l'extérieur.
Plutôt
quoi.
Que les autres, puisque les autres, ils s'en branlent finalement.
Oui, tu disais que... Tu sentais, est-ce que je prends pas la place de cette personne ? En fait, dans un sens ou dans l'autre, faut se comparer à personne. Faut pas se comparer en mode, ah, elle réussit mieux que moi. Ah, mais en fait, je prends sa place.
C'est dur. Hein.
Sinon, on est toujours en train de se dire, mais qu'est-ce que je fous là ?
Oui, c'est très dur. Mais tout arrive pour une raison, je pense, ou quand ça n'arrive pas, ça arrive pour une raison aussi. En tout cas, c'est ce que je me dis pour éviter de sombrer dans la dépression. ou par exemple, il y a des castings que je rate et puis peu de temps après, je regarde les pièces de théâtre ou les films dans lesquels j'étais supposée avoir le rôle et je me disais « Ah, bah, je suis bien contente de pas être dedans
enfin, !» Ah, ouais, ouais.
En tout cas, le cerveau trouve des moyens détournés de se faire des raisons.
Et t'es heureuse comme ça que... Ben, en fait, que tout est possible. Enfin, tu te donnes la possibilité de tout faire.
Si ça me rend heureuse...
T'es heureuse de pouvoir... Enfin, de te donner la possibilité, en fait, tu vois. Et de te laisser faire.
Ah, je suis heureuse de pas être... Enfin, d'être, entre guillemets, mon propre patron, ça, oui. Après, je suis pas vraiment mon propre patron dans le sens où je signe des contrats à droite, à gauche qui me lient à d'autres personnes. Mm-hmm. Mais... je suis mon propre patron dans le sens où je prends mes propres décisions et je fais jamais ce que je ne veux pas faire. Mmh. Et il faut toujours avoir le droit, en tout cas j'ai la chance, la possibilité de dire non, si je veux dire non. Et c'est aussi, je pense, parce que maintenant j'ai l'âge que j'ai et que je crois qu'à 22, 23, 24 ans, je refusais moins de choses.
Ouais, c'est ça.
Et je me mettais même dans des situations où je me disais, allez, c'est pour l'expérience, c'est pour le travail et tout. Là où aujourd'hui, je fais, si ça me fait chier, je ne le fais pas, même pour 200 balles. Donc, voilà.
Ouais, à quoi tu dis non ? Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi ?
Je dis non quand on me propose de la figuration, par exemple, ou de la silhouette... de la silhouette pas très intéressante. Ça dépend. Parce que les rôles silhouette, c'est plus que de la figuration, mais il y a des silhouettes qui parlent pas et puis il y a des silhouettes qui parlent. Ouais. Moi, si c'est silhouette parlante et que ça peut être une scène marrante, pourquoi pas. Mais si c'est de la silhouette qui parle pas, c'est niette. Même maintenant, je dis non quand on m'appelle pour des trucs spécifiques à la pôle ou au burlesque, donner des cours ou des cours privés. Cours privé, ça peut m'arriver encore, mais vraiment pour des personnes proches et de façon très exclusive et rare, une ou deux fois par an, ça m'arrive voilà, de redonner un cours privé ou un coaching. Mais J'ai plus envie que j'avais plus envie que ça devienne quelque chose de régulier, donc. Et à partir du moment où je veux plus qu'on me voit, même quand on m'appelait, par exemple, on m'appelait pour des podcasts ou des émissions en rapport avec la danse, etc. Ouais. Donner son avis. Là, je dis, écoutez, non, je n'en fais plus. Plus autant qu'avant. Donc, je donne la liste de mes amis mm-hmm. qui continuent d'en faire leur métier tous mm-hmm. les jours, qui auront plus de choses à dire, plus intéressantes et qui ont. Enfin, c'est mieux de les contacter, ouais. elles, que moi, présentement, quoi. Donc, ça, je dis non aussi, des choses comme ça, quoi.
Trop bien. T'es fière de tout ce que tu as créé comme ça au fil des années et de pouvoir vivre de tes arts ?
Oui, je suis fière. Et c'est difficile parce que parfois, même souvent, j'ai un grand sentiment d'insatisfaction ouais. personnelle, où c'est jamais assez, ouais. Où l'herbe est toujours plus verte ailleurs, où c'est pas la carrière dont j'avais rêvé à cet âge-là. Mmh. Et encore une fois, cette foutue comparaison où je me compare ouais. à des potes qui ont une carrière où je fais « Waouh, mon Dieu, mais ils sont passés à Cannes, ils ont fait ci, ils ont fait ça et moi pas. » Alors que je suis convaincue que même si j'avais été à Cannes ou au César ou ailleurs, je serais pas contente.
Ah oui.
Parce que c'est ma personnalité, j'aurais trouvé un moyen de dire « C'est pas assez, c'est pas...
Ah oui.
Ah, c'est pas ce que... » Donc ça, c'est une lutte de moi envers moi-même, du travail que je dois faire. Pour apprendre à justement apprécier le parcours fait jusqu'ici, qui n'est pas habituel, mmh. Et que j'arrive à tirer mon épingle du jeu grâce à la force de ma seule volonté. Mmh. Donc ça, j'essaye de me le rappeler quand j'ai des coups de mou,
ouais.
même si ce n'est pas facile tous les jours. Mais oui, pour répondre à ta question, si je suis fière, oui.
Trop bien. Qu'est-ce qui serait assez, selon toi ?
C'est difficile parce que, comme je te dis, j'ai l'impression que c'est jamais assez et que ça, c'est mais un oui. travail à faire avec une thérapeute. Mais en tout cas, dans mon rêve absolu, si j'avais des tournages en permanence, si j'avais des projets qui arrivaient sur ma table, de scénarios où je pourrais dire oui, non, oui, non.
Ou
ouais. Tel festival qui m'invite, tel truc, machin. Là, je me dirais c'est assez. Sauf que je sais très très bien que soit ce sera pas assez, parce que plus on a, plus on veut, j'ai mm-hmm. l'impression. Et soit ce sera pas assez, soit ce sera trop. Et que je me plaindrai de jamais avoir de temps pour moi,
ouais.
De jamais voir mes proches et des choses comme ça. Donc l'un dans l'autre, voilà, j'essaye de réaliser mes rêves à mon rythme. Et les choses viennent si elles doivent arriver.
Ouais. Et quelles seraient tes envies comme ça pour la suite ? Qu'est-ce que tu as envie de faire?
Alors, j'aimerais que le film fasse un carton plein, ouais. Qu'on ait plein de prix, qu'on nous définisse comme la relève de l'humour belge au cinéma, la nouvelle vague. Voilà, ça, voilà, juste reach for the stars, quoi. Sky is the limit.
Trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait?
Oh,
qu'est-ce ça que peut être à tous les niveaux.
Qu'est-ce que j'aimerais oser faire et je n'ai pas encore fait, parce que là tout d'un coup je pense à voyager toute seule, sauf que ça je le fais souvent. Mais j'aimerais notamment par rapport au voyage prendre un aller sans retour.
Ah ouais.
Et rentrer quand j'en ai marre, quoi. Mm-hmm. Mais prendre un aller sans retour et voyager ne serait-ce que plus d'un mois, parce que ça je l'ai jamais fait. Je crois que je suis jamais partie plus d'un mois quelque part. Si je crois que j'avais 18 ans, je suis partie 5 semaines avec des potes aux États-Unis dans le fin fond du trou du cul du Kansas. ne me demandez pas pourquoi, mais c'était super. mais à part ces 5 semaines-là, je pars jamais... Quand je me prends des bonnes vacances, pour moi, c'est 3 semaines, ouais. une fois l'année. Ça arrive pas tout le temps d'ailleurs, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Mais ça, c'est la chance d'être saltimbanque et de pouvoir dire bah, écoutez, je me casse, mais c'est aussi le risque de refuser ouais. du travail.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est toujours ça aussi. Là, par exemple, j'aimerais partir au Vietnam en septembre encore, mais j'ai toujours pas pris mes billets parce que je me dis mais si je trouve, je vais avoir une opportunité de dingue et je serai au Vietnam, donc c'est con. Enfin, bon. Bref, ça, c'est d'autres choix à faire. Choisir, c'est renoncer. mais donc, j'aimerais beaucoup oser partir loin, longtemps. Mm-hmm. Et me dire, tant pis si je rate du boulot, tant pis si je laisse derrière une famille, des amis, et vivre pour moi un petit peu, loin du tumulte de la vie quotidienne. Là, par exemple, je me suis pris un petit city trip dans 2 semaines à Séville, parce que j'y suis jamais allée, que j'avais envie de changer d'air toute seule, mais c'est quoi, 5 jours. Mais j'ai vraiment envie de partir, parce que on a ce luxe-là, je pense, dans notre société, et ici en Occident, de pouvoir faire ça, dépendant de notre revenu, bien sûr. Mais prendre un aller sans retour, oui, ça serait un grand kiff, ou me dire, voilà, là, je prends 6 mois sabbatique et je fais un petit tour d'Asie ou du monde, ou peu importe. Partir loin, une vraie pause.
Trop bien, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci Daphné d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaire et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.